voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus simplement d'être spectateur d'un système qui nous démange, mais d'être acteur du changement sur le chemin de la transition. Kaizen Magazine a bien envie de participer à ce changement, tout comme Aline de Pétigny, qui nous raconte son histoire pleine de sens. Aline prend la parole dans l'émission La Voix du Kaizen.
Alors, c'est l'histoire d'une princesse qui est heureuse, mais presque. Et elle a tout pour être heureuse, hein. Elle le reconnaît, elle a vraiment tout pour être heureuse, mais elle est heureuse, mais presque. Et elle a un petit vide, en elle, qu'elle essaye de combler de multiples façons. Elle essaye de faire le tour, enfin elle fait le tour du monde, elle se fait plein d'amis, mais il y a toujours ce petit presque qui est là, elle est heureuse mais presque, et elle change toute sa maison, elle est heureuse mais presque, elle refait toute sa garde-robe, voilà, il y a plein de choses qu'elle fait et elle est toujours heureuse mais presque, il y a toujours ce petit vide qui est là, insistant. Et un jour sa fée lui dit, mais c'est que t'as oublié qui tu es vraiment. T'as oublié d'où tu viens. En fin de compte, t'es une fée. Tu viens d'un pays magique. Et t'es vraiment une fée. Et si tu retrouves cette magie que tu as en toi, tu seras complète. T'auras plus ce petit vide. Et donc, pour retrouver cette magie qui est en toi, eh ben, prends le temps de te retrouver avec toi-même, le matin, le soir, n'importe quand. Assieds-toi, ferme les yeux et recentre-toi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Je suis avec Aline que j'ai rencontrée sur le stand Pour Penser, des éditions Pour Penser. Donc on va en parler aujourd'hui, mais d'abord j'aimerais que tu te présentes. Qui est Aline? Comment est-ce que tu te définirais?
Alors comment je me définis? J'ai 5 ans et demi, je m'appelle Aline de Pétigny et je suis une faiseuse d'histoires. C'est-à-dire que j'écris des histoires pour les enfants, puisque j'ai 5 ans et demi. Et puis je dessine aussi. Donc je suis auteur d'à peu près 110 livres pour les enfants. J'écris depuis une trentaine d'années. Et il y a 12 ans, avec Albert, qui est un de mes frères, nous avons créé les éditions Pour Penser. Parce que je voyais à quel point je travailler avec des éditeurs me freinait. Me freinait parce que je savais que je ne pouvais pas aller trop loin dans certaines choses que j'écrivais. Je savais que on prendrait pas certains de mes textes, que je connaissais un peu le système et qu'il fallait que je réponde à une demande plutôt que et j'avais pas envie de répondre à une demande, j'avais juste envie de dire ce que j'avais à dire.
Et quel est ce système que tu connais et quelles sont les limites que tu y voyais? Pourquoi avoir fait le choix de créer ta propre maison d'édition?
Eh ben j'avais le choix entre trouver un éditeur qui touche pas une virgule de mes textes. Et ça à chaque livre, il fallait que je me pose la question à chaque livre en plus, ou créer une maison d'édition. Donc j'ai choisi la solution la plus simple. On va dire qu'il y a certains éditeurs, la plupart, essayent de répondre à une demande du public, ou une soi-disant demande du public. Donc ils vont essayer de plaire. Et donc ils vont faire retravailler les textes en fonction de ce qu'ils pensent qui va plaire au public. Voilà. Et moi personnellement, je n'ai pas spécialement envie de plaire. Mon but, c'est pas de plaire, mon but, c'est juste de dire ce que j'ai envie de dire à ma manière. Et puis, il se trouve que ça a un écho depuis 12 ans auprès des gens. Mais c'était pas mon but premier n'était pas ça. Enfin, mon but premier était juste, j'ai écrit une histoire, j'ai envie qu'elle soit vue telle qu'elle est et non pas telle qu'un éditeur va me demander de la retravailler.
Qu'est-ce que c'est que pour toi une histoire? Pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu mets derrière l'histoire?
C'est une façon pour moi, en fait j'ai 4 enfants, et c'est une façon pour moi de dire à d'autres enfants ce que j'ai dit aux miens. Voilà, c'était aller vers les enfants d'une autre manière, comme je ne pouvais pas tous les rencontrer pour leur dire ce que j'avais envie de leur dire, et que je suis écrivaine, donc je suis passée par le biais du livre. C'est pour moi juste une façon de transmettre. Après, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Hein. Juste, je donne mon avis, je dis ce que j'ai envie de dire, et puis après, chacun prend ce qu'il veut et ce qu'il y trouve.
La première fois que j'ai rencontré donc ta maison d'édition Pour Penser, ça s'appelait encore Pour Penser à l'endroit. Pourquoi à l'endroit? Parce qu'il y a différentes manières de penser, de percevoir aujourd'hui le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit.
De toute façon, il y a différentes manières, puisqu'on est tous, on a tous des points de vue différents, on regarde tous les choses de manière différente. Après, on se retrouve un peu par famille, par... voilà. Mais alors, pour penser à l'endroit, parce que dans le premier livre, La princesse et la bergère et deux autres contes, il y a donc trois contes. Et il y a un des contes qui s'appelle Victor, le petit ours qui pensait à l'envers. Et Victor est un petit ours qui, à chaque fois qu'il commence une chose, il se dit qu'il est vraiment le plus nul des plus nuls, que jamais il y arrivera, que vraiment il est le plus nul. Et donc dans l'histoire, je dis qu'il pense à l'envers. Et puis petit à petit, il va apprendre à penser à l'endroit, à commencer les choses en se disant qu'il va y arriver. Donc pour penser à l'endroit, pour nous, n'est pas une manière de voir les choses, c'est juste commencer les choses en se disant je vais y arriver.
Et pourquoi ça a changé de nom aujourd'hui?
Alors, pour penser édition, alors on... parce que le verbe pour penser, je pourpense, tu pourpenses, hein, pour penser édition, pour penser s'écrit en un seul mot, et pour penser est un verbe, un vrai verbe hein, de la langue française, qui veut dire méditer à quelque chose, bien réfléchir à quelque chose. Et donc pour penser édition, voilà. Et on a gardé l'idée de l'envers et de l'endroit en mettant édition à l'envers.
Alors pour revenir un peu dans ton itinéraire de vie personnelle, donc tu as tout de suite su, très jeune, que tu allais te diriger vers l'écriture, vers le dessin.
Pas du tout. Moi, à un moment donné, vers 21 ans, j'avais déjà deux enfants et je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est travailler chez moi, parce que je veux élever mes enfants. Je veux travailler chez moi, je veux faire quelque chose que j'aime, je veux pas avoir d'horaire, je veux pas avoir de patron, parce que je sais comment je suis et comment je fonctionne, donc ça serait un mauvais plan d'aller vers des choses comme ça. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, il faut que ça réponde à ces quatre besoins que j'ai. Et alors, c'est tombé du ciel. Quoi. Vraiment, ça a été... Non, j'y avais pas pensé une seconde. Quoi. C'était quelque part trop un rêve. Je sais que quand j'étais petite, je lisais beaucoup, notamment des livres d'Enid Blyton. Et vu tout ce qu'elle écrivait, je me disais, mais comment elle fait pour avoir... autant d'idées pour écrire autant d'histoires. Ça, c'est un truc qui me bluffait. Je sais pas, j'avais 8-9 ans et je pensais à ça. Je me disais, mais comment elle fait, quoi? Et donc, c'était quelque part trop beau pour être vrai, quoi. Je n'avais pas pensé à ce métier-là. Alors, au début, quand j'ai écrit La princesse et la bergère, avant de créer la maison d'édition, j'ai auto-édité le livre. C'est-à-dire que je l'ai sorti vraiment sans maison d'édition, toute seule. Puis, j'ai fait des salons. Voilà, j'avais le choix entre jeter mes 1000 bouquins à la Loire ou les vendre, hein, donc j'ai choisi de les vendre. J'ai fait des salons, puis ma foi, je me suis prise aux jeux, j'ai auto-édité à ce moment-là « Tout est possible ». Et puis pour le troisième livre, La petite voix d'Honoré, là par contre on a créé la maison d'édition avec Albert. Parce que le truc c'est que c'était trop... c'était quand même un flou artistique l'auto-édition, il n'y avait pas à ce moment-là le statut d'auto-entrepreneur. Et donc là, du coup, on a créé la maison d'édition.
Donc toi, tu as choisi de t'adresser à un public jeune. Tu disais, tu es Aline, tu as 5 ans et demi. Pourquoi les enfants?
Eh ben, je sais pas. Pourquoi un pommier fait des pommes? Voilà, moi, je sais parler aux enfants, c'est tout. Enfin, je pense que je sais à peu près parler aux enfants. Voilà, c'est vers eux que je suis portée, que mon cœur me porte. J'aime beaucoup les adultes, mais je sais parler aux enfants. Je sais parler aux adultes, mais de vive voix, mais pas par écrit.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.
Quand je rencontre les éditions Pour Penser, c'est souvent sur des salons bio. Pourquoi?
Eh bien, parce que les sujets qu'on aborde, qui sont quand même des sujets comme la confiance, le bonheur, vraiment le questionnement par rapport à soi-même, parce que si on est plus heureux, on va aussi être plus à l'aise avec les autres. Donc notre relation, si on est mieux avec soi-même, notre relation avec les autres va suivre. Donc on a des sujets où vraiment, c'est des remises en question, c'est voir la vie autrement. Et... les gens qui sont intéressés par nos livres, ce sont quand même des gens qui cherchent à voir les choses autrement. Donc dans les salons bio, c'est quand même là où il y a le plus au mètre carré de gens qui cherchent à penser autrement.
Et toi, par rapport à cette mouvance justement de penser autrement ou de vivre autrement ou d'être un acteur du changement, comment est-ce que tu te positionnes? Qu'est-ce que tu vois? Quel est le constat? Quel est le monde dans lequel tu vis? Et comment est-ce que tu l'imagines? Comment est-ce que tu aimerais le voir évoluer?
Ah, comment j'aimerais le voir évoluer? Alors sans politique et sans religion, parce que je pense que ce sont vraiment deux fléaux. Voilà, après, avec de la spiritualité, ce qui n'est pas pareil que la religion. Voilà, je pense que le pouvoir est malsain, quoi. Il corrompt. Et donc éviter au plus possible, le plus possible, le pouvoir et la prise de pouvoir, quelle qu'elle soit. Voilà, après, je pense qu'il faut être le plus autonome possible, d'une manière ou d'une autre, le plus autonome possible. Voilà, savoir. Moi, c'est voilà, j'ai pas la main verte, je sais même pas faire pousser une carotte, et c'est un peu un désespoir. C'est voilà, j'aimerais savoir cultiver, quoi. Je trouve que c'est j'ai reçu des pommes de terre, les carottes non, mais les pommes de terre j'ai réussi.
Bon, après, chacun son champ d'action. Le tien, c'est plutôt l'écriture et le dessin. Tu disais aussi que c'est un moyen d'apporter une réflexion, changer les idées de certaines personnes. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que c'est essentiellement destiné à des enfants. Donc, les enfants sont en pleine recherche. Comment est-ce qu'on peut amener les enfants ou leur apprendre à penser autrement?
Non, je ne leur apprends pas à penser autrement. Moi, je dis, j'écris pour que les enfants n'oublient pas et que les adultes se souviennent. Les enfants, ils savent tout ça. C'est juste que la manière dont on vit fait qu'on est amené à oublier l'essentiel. L'enfant, il le sait, tout ça. Il le sait, puis l'école faisant, la société faisant, tous les stéréotypes dans lesquels on évolue font que on oublie quoi.
On oublie quoi?
L'essentiel. On oublie qu'avoir des bonnes notes à l'école, c'est pas si grave que ça, enfin, c'est pas si important que ça. On oublie que l'essentiel est quand même l'amour qu'on porte à l'autre. On oublie que l'essentiel, c'est de se sentir à sa place, juste dans ce qu'on fait. Je pense qu'il faut être attentif, être heureux là maintenant. Je pense que quelqu'un qui va pendant 3 ans faire des études et être malheureux dans ce qu'il fait, en se disant je vais être heureux après, je pense que c'est un mauvais plan. Voilà. Il ne sait pas de quoi la vie sera faite, et peut-être que dans 4 ans, il sera. Et puis dans quel état il sera dans 4 ans, après avoir pendant 3 ans. Avoir été malheureux pendant 3 ans, je ne pense pas. Voilà, c'est ça, quoi. Je pense qu'il faut s'appliquer à être heureux au quotidien. Et c'est ça qu'on oublie. On dit toujours Ouais, tu fais ça, mais tu verras, plus tard, ça sera bien. Là, t'en baves, mais tu vas voir. Et non, je trouve que non, il faut faire ce qu'on aime, il faut être heureux là maintenant, quoi.
Est-ce que tu as des retours des parents ou de tes lecteurs que tu as envie de partager avec nous, des réflexions que tu as pu entendre sur ton stand suite à certaines personnes qui ont pu plonger leur regard, plonger leurs idées, plonger leur nez dans tes livres?
Alors c'est pour ça aussi qu'on fait des salons, parce qu'on a des retours, et puis que c'est, on sait que bon, si on a un coup de blues, que si on trouve, c'est dur des fois, parce que bon, ouais, c'est quand même bon, il faut bêtement qu'il y ait de l'argent qui rentre pour pouvoir continuer à éditer d'autres livres. Donc des fois c'est dur, et on se dit que quand on a un salon, on ressort de là complètement boosté, parce que les gens nous disent des choses super gentilles, quoi. Super gentilles, super tendres, attendrissantes. On a vraiment des gens qui veulent nous faire connaître. Je ne sais pas si toutes les maisons d'édition Capital sympathie. Ouais, je sais pas si toutes ont ça, mais enfin nous on est gâtés de ce côté-là, et c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse, de savoir que les livres aident, qui sont utilisés par des thérapeutes, que les familles nous disent ah là. Moi je me rappelle d'une maman ici à Marjoie il y a quelques années, qui m'avait expliqué que son fils avait peur parce qu'il s'était fait, ils avaient eu un vol dans leur maison, et l'enfant était assez traumatisé après ça. Elle m'avait demandé quelques livres, je lui avais conseillé, et elle était revenue l'année suivante avec son fils Nathan, je crois qu'il s'appelait, et parce qu'elle me dit il veut vous remercier, quoi. Donc des choses comme ça, il m'arrive bien souvent d'avoir les larmes aux yeux aussi.
Oui, c'est ce que je vois, t'as les yeux qui commencent à pétiller. Aline, donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'évolution de Pourpenser. Donc Pourpenser au début, aujourd'hui et demain.
Alors aujourd'hui, à la base, moi je me disais je vais éditer moi toute seule, quoi. Je vais faire mes livres à moi, et puis voilà. Et puis, avec Albert, on est très complémentaires. Et donc, Albert est, lui, très, très, beaucoup plus porté que moi vers le groupe, vers les réseaux. Donc, on a un équilibre, je dirais, presque parfait. Et donc, on a édité beaucoup, on édite une quarantaine d'autres personnes. Donc on a un catalogue maintenant qui arrive à une centaine de titres. On se dit que c'est tant qu'assez. On souhaite pas, là on en parlait l'autre fois, on souhaite pas non plus aller trop vers un catalogue qui fasse 200, 300 titres. Ça nous ressemblerait plus, on saurait même plus vous parler des livres parce qu'une centaine on les a en tête, mais est-ce que 300 on les aurait? J'en suis pas persuadée. Maintenant il va falloir qu'on apprenne à gérer ce catalogue d'une centaine de titres. En mettant en sommeil certains titres ou en les imprimant de façon numérique, donc en petite quantité, en une centaine, qui ne se vendraient plus sur les salons, mais uniquement sur le site. Voilà, apprendre à gérer ça pour rester à une taille qui nous convient. Et puis, donner la possibilité aux auteurs, aussi ça nous tient à cœur, à l'un comme à l'autre, de s'auto-éditer. Pour moi, ça c'est vrai, un vrai... je trouve que c'est important de donner la possibilité... aux auteurs de s'auto-éditer. Je trouve que, ouais, il y a vraiment... pour moi, c'est vraiment remettre l'auteur à sa place. Vraiment à sa place, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, en t'écoutant parler, en entendant un petit peu ton parcours et ton histoire, ce que j'aime, c'est que tu as finalement choisi d'être ou de faire ce que tu étais, ce que tu aimais. Tu ne t'es jamais posé la question de quelle est ma place. Tu savais, tu y allais. Tu as envie de dessiner, d'écrire, tu t'es donné les moyens de créer finalement ton métier.
C'était une question presque de survie, quoi, parce que je sais très bien que si j'avais à travailler avec des horaires, avec un patron avec lequel je ne serais pas obligatoirement d'accord et tout, je serais très malheureuse. Et moi, je ne tiens pas à être malheureuse. Moi, je veux me lever tous les matins en étant heureuse de faire ce que je fais, en ayant plein d'idées. Et je veux avoir la liberté. Si un jour, je n'ai pas envie de travailler, mais j'ai envie d'aller me balader avec mes enfants ou avec ma maman ou de faire autre chose ou de refaire ma maison, j'ai envie de pouvoir le faire. J'ai envie de pouvoir faire ce que je veux là, quand je veux. C'est un luxe, mais c'est un luxe que je me suis... c'est pas tant un luxe que ça, je trouve que c'est la vraie vie, quoi. Après, on part sur des... il faut le bac, il faut avoir une formation, il faut ceci, il faut cela. Je pense qu'il y a une chose que je trouverais importante pour le futur, c'est le revenu universel. Je pense que la sécurité sociale s'en porterait beaucoup mieux. Il y aurait moins de malades. Si chacun pouvait lâcher un peu son travail et se remettre à faire ce qu'il aime vraiment, je pense que les gens iraient beaucoup mieux.
Donc pour toi, le revenu universel, c'est ce qu'on appelle aussi le revenu minimum de base, c'est ça, où tout le monde serait logé à la même enseigne avec un salaire de base?
Oui, et puis après, les personnes peuvent aussi travailler et avoir d'autres revenus complémentaires. L'idée n'est pas de niveler tout le monde. L'idée, c'est de donner la possibilité à chacun et à chacune de ne pas faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, quoi. De pouvoir avoir les moyens de ne pas travailler à quelque chose qu'elle n'aime pas pour pouvoir travailler à quelque chose qu'elle aime et avoir le temps de le mettre en place.
J'aimerais terminer sur la notion du bonheur. Tu disais, moi j'ai envie d'être heureux le matin quand je me réveille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, le bonheur n'est pas matériel. On a des grands penseurs qui sont là pour nous dire que finalement, la quête de l'homme aujourd'hui sur Terre, c'est quoi? C'est d'être heureux, d'être bien là où on est. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu te sens bien là où tu es?
Ah oui. Ah oui, pleinement. Pleinement, et puis c'est quelque chose que je chéris. J'ai tellement conscience que je suis heureuse, que j'ai la chance de faire ce que j'aime avec ceux que j'aime.
C'est moi qui te fais pleurer.
oui, non, c'est vrai que... il y a la fatigue des 8 jours, mais non, c'est quelque chose... Quand je m'arrête sur ça, j'ai toujours pleinement ce sentiment. Ça me comble.
Merci Aline.
La Voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.